Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Ce soir, une émission toute en couleur, puisque nous parlerons en deuxième partie d'abord, bien sûr, du chômage en Angleterre, car en Angleterre, ça fait un gros chômage aussi. Également, les chômeurs sont bien moins bien payés qu'en France. Nous en parlerons avec Yvonne en deuxième partie. Et en premier lieu, nous parlerons également des hôpitaux de Paris, parce que les hôpitaux de Paris, ils sont toujours dans la maltraitance, hein, puisque l'État supprime des lits, font en sorte que les fonctionnaires qui travaillent dans cette entreprise deviennent précaires aussi. Et en premier lieu, nous entendrons d'abord la manifestation donc de contre le chômage et contre la précarité qui s'est passée le 24 mars à Paris. Écoutons plutôt.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Ils veulent fermer leur magasin là aussi parce que soi-disant ce ne serait pas assez rentable. C'est inadmissible et on les soutiendra. Ouais. Merci aux associations de chômeurs et chômeuses, au MNCP, à AC, à la PES d'avoir été présents avec nous. C'est important la solidarité entre les chômeurs et les chômeuses et les salariés et les précaires. Et je le dis, merci aux camarades des autres organisations syndicales qui sont parmi nous. Il y en a un certain nombre, il faut les saluer. Et puis bien sûr, merci à Joliment, je vous demande de les applaudir très fort. Et Joliment qui est toujours là aux côtés de ceux et celles qui luttent. Il faut aller voir leur spectacle, il faut les soutenir, il faut s'engager avec eux. Donc merci à eux et à elles. Merci à la fanfare invisible qui nous a accompagnés dans cette manifestation. Ils sont là quelque part. Merci à la fanfare invisible, mais qui était très utile. Merci à la Batucada de Toulouse qui a fait l'effort de monter jusqu'ici pour animer cette manifestation. Merci aux Toulousains. Alors, oui, nous avons pris l'initiative de cette manifestation parce que nous pensons qu'il y a urgence sur la question de l'emploi. 5 millions de chômeurs et chômeuses, et on nous dit que ce n'est pas fini, que le chômage va continuer à progresser. Il y a urgence parce que dans ce pays, qui est le 5e pays le plus riche du monde, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a urgence parce que les plans sociaux s'accumulent, qui n'ont de sociaux que le nom. Parce que les suppressions d'emplois se multiplient dans la fonction publique et le secteur public. Parce que le chômage partiel s'ajoute au temps partiel imposé, en particulier aux femmes. Femmes qui subissent de plein fouet cette crise que elles n'ont pas plus voulu et ne sont pas responsables comme les travailleurs de ce pays. Les femmes représentent 80% des travailleurs précaires dans ce pays. Il y en a assez. Tout cela au nom de crise, de cette crise financière qu'ils veulent nous faire payer. Nous le disons clairement, nous ne sommes responsables ni de la crise qu'ils ont provoquée, ni de la dette qu'ils ont créée pour nous imposer une austérité généralisée dans toute l'Europe. Des luttes et des résistances existent ici en France, sur tout le territoire comme dans toute l'Europe. Et je salue ici la présence des indignés qui nous ont accompagnés dans cette manifestation. Alors il s'agit bien pour nous, pour l'Union syndicale solidaire, de faire converger ces luttes et ces résistances pour les rendre plus fortes, pour ne pas les laisser isolées et pour construire un rapport de force à la hauteur de ces enjeux. Car cette situation, nous le disons clairement, nécessiterait une mobilisation interprofessionnelle, nationale et unitaire. C'est pour cela que Solidaires avait proposé cette manifestation nationale. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi cet objectif. Mais nous n'y renonçons pas et Solidaires sera toujours porteur de propositions unitaires, de convergence et de lutte interprofessionnelle en direction et avec les autres organisations syndicales. Dans ce contexte, en faisant cette manifestation nationale dans des conditions difficiles, nous avons pris nos responsabilités pour dire haut et fort que sans convergence des luttes et mobilisation interprofessionnelle, nous ne gagnerons ni sur l'emploi, ni sur le reste de nos revendications. Alors, il nous semble aussi que dans cette période de campagne électorale, il nous faut faire de l'emploi un enjeu fondamental. Nous voulons que dans cette période très particulière, eh bien, les questions de fond et les débats de fond soient posés. Nous connaissons le bilan de Sarkozy. Sa politique n'a eu qu'une seule ligne de conduite, répond toujours plus aux désiderata du patronat et des banquiers. Nous n'avons pas épilogué. Tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy a été fait pour répondre aux besoins et aux exigences d'une minorité dans ce pays. Le bilan est facile à faire, c'est un bilan totalement antisocial. Mais pour autant, nous savons parfaitement que dans ce débat, eh bien, la question des droits nouveaux et la question des alternatives réelles, c'est nous, c'est par la mobilisation sociale que nous devons la poser. Nous voulons l'arrêt des suppressions d'emplois dans la fonction publique et les services publics et l'ouverture immédiate de recrutements massifs pour défendre et améliorer les services publics. Les services publics, c'est la condition d'égalité d'accès de tous les citoyens et citoyennes qui vivent dans ce pays, d'accéder aux droits fondamentaux que sont le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la culture, le droit au transport, comme le droit à l'emploi et le droit à revenu décent. Nous voulons un droit de veto dans les comités d'entreprise et la création de comités dans les entreprises de moins de 50 salariés pour que les représentants des salariés puissent effectivement imposer d'autres choix. Nous voulons un nouveau statut du salarié, applicable à toutes et tous, aux salariés des entreprises donneuses d'ordre, comme aux salariés des entreprises sous-traitantes. Ce nouveau statut doit garantir le maintien du salaire entre deux emplois et les formations nécessaires aux reconversions. Ce nouveau statut doit être financé par un fonds patronal mutualisé. C'est le patronat qui est responsable de la dégradation de l'emploi dans ce pays. Mais évidemment, ces revendications que je viens de citer et bien d'autres, tout cela implique une autre répartition des richesses. Une autre répartition des richesses, parce qu'il y en a assez que les richesses que nous produisons soient accaparées par une minorité, par les patrons, les banquiers, spéculateurs et autres actionnaires. Nous disons que de l'argent, il y en a. Cette richesse, elle doit permettre de répondre aux besoins de toutes et tous, aux droits fondamentaux comme le droit au travail, à de meilleures conditions de travail. Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner, comme on disait dans le temps, et il est temps de réhabiliter ce mot d'ordre. Nous voulons le droit à un revenu décent pour toutes et tous. Nous voulons le droit à la santé, à l'éducation et au transport. Mais nous voulons aussi une réduction du temps de travail pour toutes et tous. Nous voulons que les 32 heures ne soient plus un débat tabou. Nous pensons que les 32 heures, c'est une revendication d'actualité. Et évidemment, les 32 heures sans perte de salaire.
Ouais,
c'est une revendication fondamentale qui doit effectivement permettre d'en finir avec le chômage. Alors, aujourd'hui, nous étions 6 000. Ce n'est pas assez, mais il faudra continuer à construire les mobilisations. C'est une première étape. Nous sommes dans la rue pour dire nos colères, nos exigences et nos résistances. Pour dire aussi, et c'est important pour Solidaires, que la campagne électorale ne doit ni masquer, ni être un frein aux mouvements sociaux. La question de l'emploi est dans les discours des candidats. Mais nous savons qu'avant, comme après les échéances électorales, les mobilisations sociales sont décisives pour changer la donne. Alors encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir fait l'effort d'être ici aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de Solidaires. Merci à tous ceux qui ont organisé cette manifestation aujourd'hui. Alors oui, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui dans la rue, demain on continue, après-demain on continue, parce que ce que nous voulons, c'est un autre monde, un monde qui ne soit plus dicté par la finance. Alors oui, c'est un combat qui ne se terminera pas ce soir, qui continuera encore et encore, et Solidaires à la volonté d'aider à construire ce rapport de force et ce mouvement social indispensable pour gagner. Merci.
Et oui. Et oui, vous avez sans doute reconnu Annick Coupé, donc responsable de Sud, voilà, qui était le 24 mars à Métro Bourse pour lutter contre la précarité et le chômage, bien sûr. Dans le même cadre, nous avons, je vais attendre un coup de téléphone, je crois, mais bon, apparemment, c'est pas encore ça. Nous avons également enregistré pour vous, chers auditeurs. Bon, on attend un coup de fil, donc je sais pas, et c'en est où là, Claude ? On attend le coup de fil. D'accord, très bien, ok. Donc dans ce cadre-là, il faudra quand même rappeler quand même qu'effectivement, le chômage en France, on est à 5 millions de chômeurs, 8 millions de précaires. Également, dans toute l'Europe, c'est pareil, hein, si mes souvenirs sont bons, particulièrement
oui,
en Angleterre.
Je confirme, la crise est
et passée par là. Contre les politiques de rigueur, nous avons maintenant d'autres solutions. Nous allons voir ce qui va se passer dans les élections prochaines. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les femmes sont à 80% quand même, comme le disait Annick Coupé dans l'interview, à 80% victimes de cette solution. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe, toi ?
Bah, malheureusement, c'est pas étonnant parce que la précarité s'accompagne aussi de la faim des couples et donc d'une fragilité sociale qui s'accumule de ce fait. Je rappelle que beaucoup de personnes, de mères, de familles se retrouvent parents isolés et touchent le RSA en guise d'aumône.
Rappelons le RSA, c'est 450 euros, c'est ça ?
Voilà, sans bon. Et parallèlement à ça, il y a, ça s'explique aussi parce que faut pas oublier qu'au moment des Trente Glorieuses, même si ça a énormément changé avec les mouvements comme le féminisme, la révolution sexuelle, mai 68, on était encore dans le modèle patriarcal du mari qui ramène de l'argent à la maison et la femme au foyer.
Et encore en 68, c'était encore plein emploi. Enfin,
oui, exactement.
Le plein emploi pour les hommes.
Pour les hommes.
Et alors, ça a sous-entendu indirectement, tu vois, une sous-qualification du personnel féminin qui est des gens jetables ad vitam aeternam du fait des évolutions de la société où aujourd'hui, même les diplômés n'y arrivent plus. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on parle des dépenses sociaux, comme par exemple, on a eu récemment les Jabis, c'est des femmes qui ont été couturières de toute leur vie et qui, à part ce secteur-là qui est aujourd'hui dévasté en France, n'auront pas de possibilité du fait de leur âge de reconversion durable leur permettant d'avoir des conditions d'existence dignes. C'est-à-dire que derrière, il y a un passage générationnel pour les femmes de plus de 45 ans qui sont encore dans la vie active et qui subissent ça. C'est devenu d'ailleurs une variable d'ajustement de la part du patronat sur Absolument. Les emplois pénibles et précaires.
Tout à fait.
Au niveau du personnel féminin.
Merci Christophe. Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour Naïma. Tu es à République actuellement, c'est ça ?
Alors en fait, on est au pied de la Tour Eiffel, oui. Entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Et il y a un gros concert de soutien, en fait, marcheurs qui sont venus depuis la Lorraine jusqu'à Paris pour sauver leur emploi. Mais je vais laisser la parole à Antoine, 46 ans, qui a fait ses plus de 340 km à pied.
Très bien, merci voilà. beaucoup Naïma. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Voilà. Bonjour, voilà. Je viens de la Lorraine, à pied. En 10 jours, on a parcouru 340 km. Et cette marche-là a un but de faire comprendre aux gens que voilà, qu'on est en situation difficile en Lorraine, parce qu'il y a un patron qui s'appelle Vital, oui. qui fait des bénéfices dans notre société et qui veut quand même la fermer. Alors nous, marcheurs, on a décidé de prendre la route et de rencontrer les gens pour leur faire comprendre et leur dire « attention, il y a danger ». Il y a danger chez nous, mais il y a danger aussi dans toute la France. Et que si on fait rien, toutes les entreprises françaises vont aussi fermer. Alors nous, on est là pour notre usine, mais aussi pour délivrer un message et que les gens nous soutiennent dans notre lutte et que ça devienne une cause nationale. Parce qu'il y a bientôt les élections et que ces gouvernements, au lieu de parler de problèmes, de faux problèmes, de la viande halal ou machin, nous aujourd'hui, on n'y est pas là. Nous, il y a des emplois en jeu, il y a des familles tout entières qui...
Vous êtes venu à combien ?
On est venu à 17 marcheurs.
Oui.
Et on est déterminés parce que c'est nos vies qui en dépendent et de notre famille et de toute une région. Parce qu'il faut savoir que la sidérurgie en Lorraine, eh ben, c'est ce qui nous reste.
Oui.
Et si s'il y a plus de sidérurgie, il y a, voilà, Lorraine, ça sera une région désertique.
Et c'est pour ça que vous êtes venu ici au pied de la Tour Eiffel.
Voilà, c'est symbolique parce que cette Tour Eiffel, elle est faite avec de l'acier lorrain. Et grâce à des artistes qui sont venus spontanément nous donner leur soutien, on avait une liste. Au lieu qu'ils viennent à Florange, dans notre région,
oui.
on leur a dit, bah, écoutez, nous, on va monter en Paris et si vous pouvez donner un concert pour les gens, pour fédérer autour de nous, ça serait bien gentil. Et il y a, là, en ce moment, il y a la ville qui chante, il y aura Zelda derrière.
D'accord.
Et voilà. Et nous, on est là.
Alors, monsieur, j'ai une question, excusez-moi. Il y a combien d'emplois menacés dans votre région, là, actuellement ?
Eh bien, écoutez, il y a 3000 emplois directs, plus 3000 indirects, ça veut dire les co-traitants, les sous-traitants et les intérimaires.
Vous-même, vous êtes intérimaire.
Voilà, je suis intérimaire et depuis le mois d'août, depuis qu'ils ont arrêté le fourneau, je suis au chômage. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour monter à la capitale et pour dénoncer ça.
Très bien. Alors, vous êtes parti à 17, mais là, vous n'êtes pas 17 en bas de la Tour Eiffel, là. Vous êtes plus nombreux.
Oui, on est arrivé à 17.
Oui, vous êtes arrivé à 17.
Bon, il y a des autres marcheurs qui sont venus nous rejoindre.
Oui.
On a eu le comité de... toute la Lorraine qui est descendue. Il y a plus de 15 bus qui sont descendus.
Ah oui, quand même, oui.
Ça veut dire 800 personnes qui sont venues nous soutenir parce que la Lorraine est là et c'est la région Lorraine qui finance ce grand concert géant.
Très bien.
Alors, ça veut dire que toute la région Lorraine est derrière nous et nous, voilà. C'est quelque chose de formidable pour nous.
Vas-y, Christophe.
Oui, moi je voulais vous poser une question. Il faut savoir qu'avant la fusion ArcelorMittal, je crois que votre haut fourneau dégageait des bénéfices. C'était une entreprise qui était rentable.
Tu peux parler un peu plus fort ?
Oui, je disais qu'avant la fusion financière ArcelorMittal, il faut savoir que que le haut fourneau de Grande Range rapportait de l'argent. C'était une entreprise rentable.
Non, c'est à Florange. Grande Range est fermée.
Oui, à Florence,
pardon. Grande Range, c'est là où Nicolas Sarkozy est venu promettre des choses qu'il n'a pas tenues. Et Grande Range, aujourd'hui, c'est fermé. Et quand il était venu nous donner cette promesse, 6 mois après, il est revenu et il nous a dit on va pérenniser le site de Florange. Et aujourd'hui, il est menacé.
Ben, écoutez, monsieur, je tiens à vous dire quand même que toute la station FPP et puis Mission Mode d'Emploi vous soutient aussi dans ce combat. Ça va de soi. Parce que nous, on considère qu'en France, qui est un pays riche, où il y a beaucoup de milliardaires quand même, hein, même s'ils sont peu nombreux par rapport à la masse, hein, C'est pas normal qu'on détruise des emplois comme ça, voilà. Donc on vous soutient, sachez-le, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous a permis
merci
de
rentrer. Merci beaucoup, je vous en prie. Et je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'est normal.
Allez.
Bonjour à tous, hein. Au revoir.
D'accord, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Très bien, donc vous venez d'entendre effectivement un sidérurgiste de Gandrange, si mes souvenirs sont, c'est Gandrange dont il était, ouais c'est ça.
Florange.
De toute façon, c'est deux, c'est deux
gros fournées symboliques. Florange,
voilà, ils sont tous les deux menacés. Il y en a un qui a fermé effectivement. Donc c'était quand même important de lui donner la parole parce que c'est quand même de l'actualité.
C'est vrai qu'on lui a pas posé une question de savoir s'il va demander à François Hollande de prendre des engagements pour
exactement,
la suite.
Exactement. Oui. Et puis surtout s'il avait été reçu, s'ils avaient fait une délégation et être reçu par les gens. Mais ça, on saura peut-être après.
Je suis pas sûr qu'ils soient reçus par Sarkozy, mais
non, mais non, Sarkozy, il reçoit plus personne maintenant. Il est tellement dans les sondages. Je rigole. Voilà. Alors on va peut-être passer une petite chanson si vous me permettez, et puis on prend la parole par la suite.
Connaît depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra pas de si dans le de leur saloperie de guillotine. Un même aussi gentil Fredo.
Et oui, c'était Fredo, donc un texte de Bernard Dimet quand même, faut quand même le citer, quand même, c'est un grand monsieur. Voilà. C'est bien sûr Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires avec Ludo, Christophe, Yvonne. Bonjour à tous.
Bonjour.
Hello.
Bonsoir.
Gilles au micro aussi. Et puis bien sûr Claude à la technique, comme toujours. Voilà. Donc on va reprendre cette émission parce que bien sûr, vous le savez très bien, depuis longtemps maintenant, les hôpitaux de Paris, dont Tenon et Trousseau, ont été victime un petit peu de la rigueur aussi, beaucoup de choses ont fermé, des lits ont été diminués, les gens qui y travaillent sont précarisés.
Les maternités surtout,
et puis des problèmes sur l'IVG, etc. Donc on a fait quelques interviews de rue, on va écouter.
C'était assez dur, difficile à entendre. Voilà, donc ça a quand même duré un bon moment, et à un moment donné, on a dit laissez M. Poinboeuf répondre. Ah, ça a très mal commencé. Mais alors, vraiment très mal commencé. Parce qu'il a commencé à dire « Je suis pétri de vos certitudes ». Voilà comment il a commencé. Voilà, c'était sa première réponse. Ensuite, comme il y en a certains qui ont attaqué la PHP en disant que vraiment la PHP ne savait vraiment pas gérer, que c'était du n'importe quoi, que c'était même pas des économies, parce qu'ils dépensaient à tout va sur les cabinets privés, sur l'informatique, et voilà ce qu'il est. Et monsieur s'est senti attaqué personnellement. Voilà. Donc, il nous a fait sa grande tirade. Vous attaquez les directeurs, les cadres, enfin voilà. La grande tirade sur on tyrannise les directeurs et les cadres. Voilà. Donc, il nous a dit si vous méprisez les directeurs, les cadres, comment voulez-vous si vous ne respectez pas les personnes qui engagent ces politiques, comment voulez-vous qu'il y ait du dialogue social? Voilà. Ensuite, comme il y en a qui ont beaucoup parlé sur la dette, la fameuse dette de la PHP, on leur a bien expliqué que la dette, c'est comme on veut, hein, on peut l'expliquer d'une autre façon. Il nous a dit, mais comment on gère? Le budget de l'hôpital, c'est comme à la maison. Voilà. On lui a dit, ah bon, budget de l'hôpital comme à la maison, d'accord. On ne sait pas tout à fait les mêmes sommes. Et puis on n'est pas du tout dans les mêmes... Maison, c'est privé, l'hôpital, c'est public. Et je pense pas que l'argent se gère de la même façon. Après, il nous a fait une grande tirade sur la situation difficile de la sécurité sociale, n'est-ce pas? Donc il fallait, voilà, la sécurité sociale va mal, donc il faut faire des économies. Voilà, après, on a parlé donc de tous les hôpitaux qui vieillissaient et qu'on n'a pas entretenus. Donc effectivement, le parc immobilier, il reconnaît qu'il est dégradé, sauf qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas de moyens. Et puis de toute façon, il nous a dit qu'il faut réussir l'équilibre, il n'y a pas le choix. Pour le document tombé du camion, Alors, le document tombé du camion, il nous a dit que c'était un document de travail, nouvelle idée. Voilà. On lui a aussi reparlé de l'agenda social, et là, évidemment, c'était compliqué, parce que à chaque fois qu'il a parlé de l'agenda social, et ben les personnes qui ont assisté à ces réunions ont expliqué qu'est-ce que c'était cet agenda social, où rien n'était négociable, voilà. Donc, et alors le seul positif pour l'instant, parce que ça continue, pour 2012, il nous a assuré la garantie de la demi-cotisation ouvrière. Voilà. C'est le seul point positif pour l'instant. Tout le reste, voilà, et ça fait 10 minutes qu'il est en train de nous parler, nous répondre à tout ce qu'on a dit. Mais alors, rien sur les conditions... il va peut-être en parler maintenant. Mais rien sur les conditions de travail des personnels, sur les patients. Pourtant, il y a des gens qui ont raconté que dans les urgences, il y avait des personnes âgées qui restaient parfois dans les couloirs, qui ne mangeaient pas, qui ne pouvaient même pas aller aux toilettes. Enfin, des choses épouvantables. Et apparemment, ils n'ont rien... Mais rien, ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Ils ont un visage... voilà, rigide, voilà. Et puis le pauvre, on lui fait du mal, on lui parle mal, on ne le respecte pas. Voilà. Bon, alors, vous avez vu, il y a quand même une camarade qui est descendue de la délégation. Il y a des choses que j'ai retenues, et vous aussi. Paraît-il, on méprise la direction générale, on mépriserait nos cadres, qui, je vous le rappelle, dans nos hostos, sont dans une grande souffrance, tellement ils ont des objectifs, des contraintes à peser, autant financières que dans le cadre des emplois. Et moi, je voudrais dire, monsieur la directrice générale, madame la directrice générale, nous, on considère que le personnel est méprisé. Quand on voit nos ouvriers qui subissent chaque jour des suppressions d'emplois dans leurs ateliers, où ils sont parfois deux par site, plombier, électricien, pourtant il y a les gardes des hôpitaux. Alors imaginez les catastrophes si elles arrivaient. Un groupe électrogène qui pète, on n'a plus d'électricité, on ne peut plus soigner. Alors ça, c'est du mépris. Les infirmières, il en manque 700 à la PHP pour fonctionner. Là aussi, il y a un mépris, parce qu'ils ont mis l'ordre infirmier. Et vous savez ce que c'est, l'ordre infirmier ? C'est l'exercice libéral de notre profession. On n'accepte pas que cet argent, encore une fois de plus, va rentrer toujours et toujours pour les actionnaires et pour la sécurité sociale, puisque soi-disant, la protection sociale va mal. Je rappelle quelques chiffres. 96 millions de déficit de la sécurité sociale. 170 millions nous ont été taxés sur nos salaires depuis maintenant 4 ans sur cette question pour soi-disant renflouer le déficit. Mais je vous rappelle aussi que ça fait 5 ans, vous êtes taxés sur l'alcool, sur les cigarettes, et tout ça, tout cet argent-là, il est resté dans une caisse unique, celle de Sarko, de cette politique-là. Et regardez aussi ce qui se passe. 60% de l'activité de chirurgie d'assistance publique a été concédée au privé. Alors ça veut dire quoi le privé ? Évidemment, c'est le choix d'un usager que d'utiliser une structure ou une autre, que d'y parvenir pour se soigner. Sauf que le privé, il faut savoir que les caisses, c'est pour les actionnaires et les revenus financiers de cette politique-là. De cette politique-là. Ils ont fermé nos services en prenant comme projet leur fameux grand projet de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui était de regrouper nos hôpitaux. Avec le regroupement, sachez, chers collègues, quelque chose de très important. Ils ont refait, ils ont remis la démocratie. La démocratie, ils en ont fait un déni. Ils ont, avec leur loi, casser l'assistance publique pour que les organisations syndicales ne puissent pas exprimer les revendications des personnels de cette politique-là. De cette politique-là. Et ils n'ont pas fini. C'est pour ça que le 29 à 10h, il faut être au Sénat pour se rendre au ministère de la Santé.
parce qu'il faut qu'on défende la protection sociale, faut qu'on défende l'hôpital public, faut qu'on défende les PMU, faut qu'on défende la santé scolaire, faut qu'on défende l'enseignement, faut qu'on défende la recherche de cette politique-là. Alors oui, la direction générale nous argue chaque jour que nous avons trop de RTT à récupérer. Nous aurions plus d'un million de jours à récupérer. Vous savez à quoi ça correspond ? À 3000 emplois. Sachez quand même, à vous tous, chers collègues, qu'il y a encore 10 ans, nous étions 90 000 agents de la fonction publique. Il y a 10 ans, nous ne sommes plus que 70 000. Il faut arrêter la casse. Cette casse-là, si on ne l'arrête pas maintenant, la PHP n'aura plus son statut particulier. La seule force qu'on peut donner à la PHP, c'est le peuple de l'assistance publique. On lâche rien. On lâche rien.
C'était Debout de Joli Môme, et avant, juste avant, c'était donc la manifestation des hôpitaux de Paris pour lutter contre la précarité dans les hôpitaux de Paris. Bien sûr, c'était fin février à Paris, voilà. Donc, on va reprendre cette émission, ces modes d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, avec, bien sûr, on va parler des femmes, puisque nous les avons beaucoup dans cette émission, les femmes, bien sûr. Et d'autant qu'elles sont
beaucoup... Il y en a tellement, faut dire.
Il y en a tellement qui sont précaires.
Dans notre émission.
Oui, en plus, il y en a beaucoup, absolument, Ludo. Donc, Yvonne... tu nous as fait un petit topo. Tu peux nous faire un petit topo sur la condition des femmes aujourd'hui à l'emploi en France, éventuellement
en Angleterre.
En Angleterre, oui, voilà, c'est ça, en Angleterre. Voilà. Dis-moi un peu.
Oui, justement, c'est que je voulais dire, c'est que chez nous, voilà, il y a ce phénomène, comme Christophe a dit, les femmes qui travaillent, qui rentrent en masse sur le marché du travail. Et puis, que se passe-t-il ? Elles se trouvent cantonnées dans le service public. Alors, ce qui se passe avec les problèmes de plan de rigueur et austérité, il y a une coupure ou une sorte de... comment on appelle ça ?
Des coupes budgétaires.
Des coupes budgétaires, oui. Des coupes budgétaires. Et puis, évidemment, il y a des licenciements massifs par la diminution petit à petit
du nombre de fonctionnaires.
Des fonctionnaires, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Donc, en 2011, plus de 25 000 postes ont été supprimés dans les secteurs santé et éducation, et ça a entraîné 7% des salariés. Alors, ce qui s'est passé maintenant, les femmes sont majoritairement des chômeurs. En fin de compte, les associations des femmes ont calculé qu'elles font plus de 80% des chômeurs. À l'heure actuelle, le taux des femmes au chômage est le plus élevé depuis 25 ans. Donc, évidemment, ça correspond à l'entrée massive des femmes sur le marché du travail.
Oui, les femmes à la maison, c'était une politique comme une autre.
Oh oui, mais le problème, c'est que les femmes ne vont pas rester, évidemment, chez eux. Mais en plus, ce qui est important, c'est plus élevé que le nombre de chômeurs, le nombre des hommes au chômage. Donc, c'est la preuve, évidemment, que les femmes subissent la plus grande part des coupures budgétaires.
Oui, mais il me semblait qu'en Angleterre, qui est un pays très avancé dans tous les domaines, on le sait bien.
Très moderne.
Voilà, donc avant, donc jusqu'en 1981, on va dire, donc qui était quand même très avancé, ils voulaient promouvoir l'emploi des femmes donc via les services publics. Donc ils avaient vraiment mis un système presque de quotas dans les services publics pour embaucher des femmes.
Oui,
donc,
mais
c'est pour ça que c'est les victimes, puisque c'est les services publics.
Moi je pense que c'est une évolution sociale, que les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Et puis en plus, elles sont dans les secteurs qui aident les femmes. Bon, secteur maternel, santé, éducation. Alors vous coupez, vous réduisez ces secteurs-là, ces services, et que se passe-t-il? Il y a aussi une réduction dans ces services. Pour la société tout entière. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est vachement intéressante, et ça vient de Europe. Alors, ce qui se passe, c'est que les femmes en Angleterre ont cherché à avoir une étude obligatoire sur chaque nouvelle législation par rapport avec la loi d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Et ceci avec l'objet de limiter la portée négative et disproportionnée sur les femmes en tant que catégorie des salariés. Mais évidemment, il faut rêver.
Donc c'est une politique anti-discrimination qui est demandée. Tu peux nous rappeler qui est au gouvernement en Angleterre?
Cameron.
Et donc c'est un conservateur, lui.
Conservateur, ouais. en coalition avec des libéraux qui sont quasiment
Des pantins,
absolument. Oui.
C'est plutôt le centre, les libéraux, c'est des centristes ou c'est des
ultra-libéraux? Non, c'est le Front National de là-bas, quoi. C'est
Non, pas du tout.
D'accord, pardon.
Non, à fin de compte.
Je connais pas les Anglais,
Les libéraux, ils ont eu l'histoire d'être le parti de proteste, le parti d'intégrité qui fait bastion entre la gauche.
D'accord.
C'est un peu notre Bayrou.
Mais là, ils ont raté tout ça.
C'est le Bayrou à nous. T'as raison.
Et donc, il faut dire, en fait, en Angleterre, oui. Après avoir quand même mené des politiques de réduction importantes dans les services publics, bah, avec la crise, c'est encore pire, quoi.
Oh, c'est encore pire, exact. Et puis, les libéraux démocrates, enfin, quand tout le monde a pensé qu'ils vont jouer un rôle de calmer les travaillistes, de freiner toute cette coupure, hein, ou le programme d'austérité. Mais en fin de compte, non. C'est eux qui ont séduit les étudiants. Justement, en disant qu'on va pas augmenter les frais universitaires, tu te rappelles ça, il y a 2 ans, les étudiants n'ont pas oublié, et puis il y a eu dernièrement une élection partielle, j'en parlerai de ça si on a du temps, qui montre à quel point que les étudiants ont mémoire très longue, et puis ils ont voté massivement contre les partis libéraux.
Oui, parce que les frais d'inscription en Angleterre ont doublé, triplé voilà, ces dernières années. Donc voilà, il faut rappeler, donc 25 000 postes supprimés dans le service public en 2011.
Il faut peut-être rappeler aussi qu'en Angleterre, c'est le pays le plus qui rémunère le moins ses chômeurs.
Oui.
Puisque c'est 50 livres sterling par semaine pour les plus de 25 ans.
Oui.
ce qui n'est pas énorme. Ça fait combien les salines par rapport au franc, par rapport au euro, je veux dire.
C'est en pleine chute pour le moment. Et puis je voulais vous dire une chose que depuis l'élection de la coalition, il y a un emploi dans le secteur public supprimé toutes les 2 minutes et 18 secondes. Voilà. Ça
veut... Ah oui, c'est mieux qu'un fonctionnaire sur deux nous remplacer, quoi. Ouais. C'est encore plus fort.
Ouais. Ouais. Bah, autre pays, même politique, hein, on va dire. Hein.
Ah ben, je dirais même que c'est des politiques précurseurs, souvent.
Yvonne, moi j'avais une question. Oui. Tu penses que les inégalités en France sont moins ou plus importantes qu'en Angleterre?
Oh, c'est vachement difficile. À mon avis, c'est relatif.
Ouais.
C'est relatif. Et puis, chez nous, peut-être au niveau des femmes, les femmes font moins de la cuisine.
Font moins la cuisine.
Oui, font moins la cuisine, donc le travail domestique est moins important par rapport à la France. Et peut-être les femmes, elles ont vie nettement plus d'extérieur, de foyer qu'en France.
J'ai juste une question avant de passer la parole à Ludo. Comment se passe la contestation en Angleterre par rapport à tous ces phénomènes de rigueur, etc.
Franchement, il faut une autre émission.
D'accord.
J'étais en train de chercher les nombres des manifestations. Il y en a beaucoup. Dernièrement, il y avait une grande manifestation contre les coupures dans les santé publique, dans notre service national de santé. Et puis là, c'était massif. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que non seulement on dit arrête les coupures, mais on dit couper la défense, couper le missile nucléaire Trident qui coûte 100 billions pour le maintenir. Ouais. Donc voilà, c'est faites ceci, faites cela, mais ne coupe pas le service de santé.
C'est historique les manifs en Angleterre.
Alors Ludo, peut-être que tu prends la parole quand tu veux, hein, bien sûr.
Okay, merci.
Donc Ludo, les mini jobs alors en Angleterre,
oui,
ça
alors,
se passe comment?
Alors donc je vais repasser la parole après donc pour Yvonne, pour qu'elle parle des mini jobs. Je voulais d'abord parler des job centers en Angleterre. Pourquoi? Parce que les job centers, hein, c'est l'équivalent de notre ANPE. C'est qu'en fait la politique de fusion de l'ANPE et de l'UNEDIC en France, donc celle de Nicolas Sarkozy, a été complètement inspirée, totalement inspirée de ce qui s'est fait en Angleterre, puisqu'on a les Anglais en fait, et bien plutôt un sous en fait notre ami Tony Blair et le New Labour ont voulu promouvoir une politique promouvoir l'efficacité des services publics, notamment de l'emploi, mais pas que, aussi de l'hôpital. Et pour ça, ils ont promu un manager, une politique de management appliquée aux services publics. Donc concrètement, ça s'est traduit pour le service public de l'emploi par une fusion, donc un guichet unique, entre une fusion des services d'indemnisation des chômeurs et avec les job centers en fait, hein, qui sont effectivement le placement des chômeurs. Alors ça a un effet direct, c'est une contrainte sur l'indemnisation des chômeurs pour les inciter à accepter les emplois précaires qui sont toujours très nombreux en Grande-Bretagne. Donc là il y avait un stock en fait de main d'œuvre disponible qu'il fallait placer notamment auprès des grandes entreprises qui sont devenues des partenaires des job centers. Donc une accélération du partenariat public-privé et effectivement une externalisation des entreprises privées de placement, c'est-à-dire qui fonctionnent en fait sur les services sur l'argent public et qui bon en résumé c'est un marché, hein, comme on l'a dit, sur un marché qui aide à c'est le marché du social, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent là-dessus. Elle nous en dira un peu plus.
À dire,
voilà.
Là-dessus.
Voilà. Donc donc l'idée était quand même de tout simplement de responsabiliser des chômeurs, mais aussi de responsabiliser celui qui devait leur trouver un boulot, en l'occurrence l'équivalent
de qui place, quoi.
Voilà, le plafond, et qui a perdu son statut de fonctionnaire, hein, assez vite, en 88 je crois, et qui est devenu quelqu'un qui était quand même mis sous pression avec des objectifs de rentabilité chiffrés et surtout une surveillance informatique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à la NPE. Alors tout ça en fait, bon, pour donner une petite idée, aujourd'hui les job centers emploient 70 000 agents. C'est vous dire hein, quand même, même en Angleterre, le pays du libéralisme triomphant, les services publics de l'emploi sont devenus des mastodontes, de toute façon extrêmement bureaucratiques, quelles que soient les réformes qu'on leur applique. Il faut savoir qu'ils avaient déjà, quand ils sont à 70 000 agents, ils avaient perdu 15 000 postes. Hein, sous les années Blair, tout ça pour 5 millions d'inscrits, ce qui est pas mal, mais ce qui correspond à peu près aussi à la France. Hein. Et effectivement, les job centers ont été les premiers à instaurer les centres d'appel qu'on connaît ici, parce que pour effectivement faire disparaître un certain nombre de gens, et surtout pour faire disparaître un nombre d'agences importantes et pouvoir récupérer les terrains. Donc c'était vraiment une logique de rentabilité. On est passé de 1500 agences à 800 agences.
Donc leur rôle quand même principal, c'est de placer le maximum de chômeurs sur des emplois non rémunérés, c'est ça ?
Alors justement, là on va y venir sur le job center. Oui. Je vais juste finir sur ce truc pour dire qu'en fait, tout ça était très très bien, mais sauf qu'on s'est aperçu que ça produisait une bureaucratie qui était au moins équivalente à celle précédente du fait simplement des contrôles, et que c'est valable en fait pour tous les services publics anglais ou les réformes du service public anglais entraîne une bureaucratie qui est aussi importante que
la précédente. Que la précédente. En fait, c'est ça. Yvonne, oui, tu voulais
voilà, dire. Voilà, moi j'ai une version à jour. Et puis la bureaucratie, la bureaucratie est maintenant le capitalisme à outrance. Écoutez jusqu'à la fin. Alors, pour être absolument rapide, voilà, donc vous savez, le gouvernement a créé un programme qui s'appelle Assistant. J'ai perdu mon tour. Anyway, bref, c'est assistant pour l'emploi, voilà. Alors, donc, c'est le style fais gagner ton allocation, l'assistance à l'emploi, ou tu perds l'allocation. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le gouvernement a sous-traité le placement des chômeurs déjà sélectionnés par le Job Center entre les mains des sociétés privées de placement. Donc, les chômeurs sélectionnés travaillent pour 16 heures par mois, renouvelables, dans une job peu qualifiante, enfin, quand c'est les McJobs, hein, pour aller vite. Et puis...
Le McDo job.
C'est qu'il faut dire que ces gens de job, tout le monde a prévu qu'il y aurait des problèmes, que ces jobs sans salaire vont tirer les salaires d'autres catégories des travailleurs dans le bas. Donc, sans aucun statut reconnu de salaire et sans aucun droit de travail, comme les vacances, etc., ça n'a pas que empirer les situations des gens qui travaillent dans un trim, qui ont des travails précaires. Donc, quelle sorte de job, hein? Cette Mac job sans avenir, et en général, du travail routinier. Hein. Donc, c'est des boulots de ménage dans les foyers, y compris chez les particuliers, et dans les bureaux, et aussi dans les bureaux de sociétés de placement. Donc, évidemment, arriver de cette manœuvre gratuite sur le marché du travail a eu pour conséquence de faire baisser la demande des travaux temporaires et entraînant une réduction des horaires supplémentaires des travailleurs permanents. Donc, un cercle infernal a été créé. Que se passe-t-il? Les chômeurs remplacent des précaires qui se trouvent inscrits comme chômeurs officiels dans un no man's land de droit du travail. Alors, ce programme nommé sans ironie, assistante à l'emploi, concerne surtout les jeunes et puis des femmes et des mères célibataires. Hein. Alors, les jeunes, il y avait 34 000 qui ont commencé à travailler pour une durée de 8 semaines renouvelables. Alors, évidemment, il y a eu un scandale. Alors, le scandale et puis, a éclaté quand justement... Beaucoup de ces gens-là ont été embauchés dans les supermarchés. Donc, ça a suscité une vague de protestations. Et puis, comme c'est trop flagrant, les syndicats sont intervenus. Et puis, il y a eu une vague de procès au prud'homme. Et oui.
Oui, il faut préciser que ce, donc ces job centers ne sont pas rémunérés, en fait, et c'est
non,
pour ne pas perdre.
Non, j'explique voilà. bien, c'est
on emploie des gens qui ne sont pas payés.
Voilà, j'explique bien que ces manœuvres non payées, aucun droit de travail. Et puis en plus, les rôles des job centers étaient de sanctionner les chômeurs. Si les chômeurs ne travaillent pas bien, ils perdent 8 ou 26 semaines de ces allocations, c'est complètement...
Donc ils ont un statut d'esclave.
Oui, absolument. Oui. Alors, ce qui s'est passé, donc ça c'est la fin, il y a une société de placement qui s'appelle A4E. Alors, la gérante de cette société de placement a été obligée de se démissionner. La presse a fait scandale parce que elle a eu un contrat de sous-traitante de la valeur de plusieurs millions de livres sterling. Et puis, il y a aussi des accusations de fraude. Donc, grâce à l'argent public, la patronne de cette société de placement s'est donné un salaire de banquier, y compris les dividendes. Donc, depuis mai 2010, elle est devenue actionnaire majoritaire et gestionnaire des contrats gouvernementaux qui valaient plus de 200 millions de livres sterling. Hein. Donc, la société a payé au total 11 millions en dividendes, mais la patronne s'est fait cadeau de 8,6 millions. Évidemment, elle a fait travailler gratuitement les chômeurs dans son propre bureau.
Le chômage, ça rapporte.
Bravo, bravo, on peut la féliciter, on peut même. Hein, hein.
Ouais.
Bah,
oui,
elle continue, hein, parce qu'elle est bien partie, a priori. Hein.
Oui, il me semble, le dernier écho que j'ai eu de son affaire, c'est que le gouvernement l'a remercié avec davantage de contrats.
Voilà.
Voilà, c'est la privatisation à outrance.
Alors, après avoir entendu tout ça, il faut quand même éviter le Valium et le Prozac, quand même. Hein. Le mieux, c'est de descendre dans la rue pour manifester. Donc, on vous attend, bien sûr, dans les prochaines manifs, hein, parce qu'il y en aura encore beaucoup. Voilà, donc cette émission se termine. Merci, messieurs, dames, de l'avoir faite. Merci, messieurs, dames, de l'avoir écoutée. Je dis bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Et la semaine prochaine, c'est Attaque.
Et c'est Attaque la semaine prochaine. Au revoir.
Bonne soirée.
Souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus.
Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables.
Méfiez-vous des bons parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement, celui qui possède de la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Préférez les hommes qui ne brigueront pas vos suffrages, le véritable mérite est modeste. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces quelques observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous élirez des mandataires qui ne se considéreront jamais comme grands maîtres. Oh.